Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Actuellement, nos études portent sur un livre de la Bible écrit par le prophète Habacuc.
Tout comme beaucoup, Habacuc vivait dans une société violente et dépourvue de justice. Or, ce livre montre comment, dans un tel contexte, le prophète Habacuc a appris à vivre par la foi et quelles sont les leçons fortes et pertinentes qu'il nous laisse aujourd'hui. Tout au long de cette série, Ian sera en compagnie de notre invité André.
Bonjour André, et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Ian et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons appris que le prophète Habacuc, profondément attristé par l'état de sa société et la souffrance des justes, crie à son désarroi à Dieu. Mais André, quelle réponse reçut-il alors de la part de l'Éternel ?
Habacuc reçut une réponse qui suscita en lui plus d'interrogations encore.
Pourquoi ?
Écoutez ce que Dieu annonça au prophète.
Regardez, traître, et observez, vous serez stupéfait, car je vais accomplir en votre temps une œuvre. Vous ne le croiriez pas si on vous en parlait. Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné, qui parcourent les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable. Ses chevaux sont agiles, plus que des léopards, et ils ont du mordant, plus que les loups du soir. Ses coursiers se déploient, ils arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle lorsqu'ils font sur sa proie. Oui, les voilà, qui viennent tous, adonnés à la violence. Le visage tendu, ils foncent en avant. Partout, ce peuple traite les rois avec mépris. Ils se rient des princes et de toutes leurs forteresses. Ils élèvent contre elles des terrasses de siège et s'en emparent.
Ainsi donc, Dieu allait livrer le peuple de Juda à une autre nation, les Chaldéens, afin de les passer au jugement.
Oui, à cette époque-là, les Chaldéens constituaient une puissance dominant le Moyen-Orient. Or, ce peuple était renommé pour son côté guerrier et extrêmement violent. Et voilà qu'Habacuc annonce que ce peuple allait envahir la nation de Juda et la soumettre à une rare violence. En fait, plusieurs prophètes annonçaient déjà ce même message. Des prophètes tels que Jérémie avertissaient le peuple en déclarant que s'il ne changeait pas, il subirait le jugement divin. Habacuc ne faisait donc que confirmer ses prophéties données par Dieu.
Habacuc avait crié son désespoir à Dieu, en espérant certainement que cette situation allait s'améliorer. Cependant, Dieu lui annonce qu'au contraire, tout allait aller de mal en pis.
C'est exact. D'où les nombreuses interrogations du prophète. Écoutez sa deuxième plainte adressée à Dieu.
N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel ? Tu es mon Dieu, mon saint. Tu ne meurs pas. Ô Éternel, toi le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple. Tes yeux sont bien trop purs pour accepter de voir le mal. Tu ne peux supporter la vue de l'affliction. Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit le plus juste que lui ? Tu traites les humains tout comme des poissons ou comme des bestioles qui n'ont ni chef ni traître. Car le Chaldéen les prend tous à la meçon. Il les drague dans son filet et les entasse dans sa nasse. C'est pourquoi il se réjouit et il exulte. Continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive pour égorger d'autres nations sans aucune pitié ?
À travers ces paroles d'Habacuc, nous entrons encore plus en profondeur dans la problématique posée par le livre de ce prophète. D'une part, Habacuc reconnaît certaines vérités importantes. Il reconnaît que Dieu est le souverain et qu'il est saint, pur et juste. De ce fait, le prophète reconnaît aussi que Dieu a le droit de juger son peuple si celui-ci se détourne de lui. Cependant, Habacuc a du mal à accepter deux réalités qui le plongent dans la perplexité, voire le désespoir.
Et quelles sont-elles ?
Tout d'abord, il ne comprend pas pourquoi l'Éternel, qui est le Dieu pur, peut se servir d'une nation profondément méchante afin d'exécuter ses desseins, même s'il s'agit d'un châtiment. Pourquoi donc permet-il aux méchants de réussir ? Ensuite, le prophète se lamente du fait que les justes, ceux qui, parmi le peuple, étaient restés fidèles à Dieu, allaient devoir subir le même sort que les injustes. Autrement dit, tous en Juda allaient être assujettis à la brutalité des Chaldéens. Les justes allaient mourir avec les injustes. Les justes seraient victimes de la cruauté autant que les pécheurs. Et Dieu, selon le prophète, semble indifférent à cette réalité.
Et ces mêmes questions peuvent assaillir nos cœurs aujourd'hui.
Oui, et c'est la raison pour laquelle nous étudions ce livre biblique. Beaucoup de nos amis auditeurs vivent dans des pays confrontés à de considérables problèmes. Ils doivent faire face à des conflits, à la violence, à la guerre, à la pauvreté et la corruption, toutes sortes de maladies graves, aux catastrophes naturelles. En tant que croyants, nous pouvons crier notre douleur à Dieu, lui faire part de notre détresse. Pourtant, parfois nos circonstances, au lieu de s'améliorer, s'empirent. Nous pouvons nous le demander. Dieu livre-t-il nos sociétés aux conséquences de leur méchanceté ? Souvent, quand les circonstances vont de mal en pis, les chrétiens en souffrent les premiers, et quelquefois le plus. Pourquoi les choses sont-elles ainsi ? Voilà la question d'Habacuc. Voici une question qui peut être la nôtre aussi.
Mais quelle est la réponse ?
Nous venons de formuler la problématique du livre d'Habacuc et nous en développerons la réponse au fur et à mesure que les émissions consacrées sur ce livre se dérouleront. Nous nous concentrerons alors sur les paroles apportées par Dieu en réponse aux plaintes du prophète et nous remarquerons le cheminement spirituel d'Habacuc vers la joie, la paix et l'espérance. En bref, Dieu annonce aux croyants que même si tout va de mal en pis dans son pays, il doit vivre par la foi. Nous apprendrons ce que cela signifie, vivre par la foi. Mais, pour conclure aujourd'hui, écoutons la suite de ce que le prophète déclare à Dieu.
Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort de guetteur. Et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira.
Le prophète était déterminé d'obtenir une réponse de la part de Dieu, et il l'attendait ardemment. Autrement dit, malgré tout, il avait cette conviction que la réponse se trouvait auprès de Dieu et non ailleurs. Même s'il ne comprenait pas les diverses circonstances auxquelles il était confronté, il n'avait pas abandonné Dieu, et il cherchait avec son aide à mieux comprendre les événements cruels qui l'entouraient. Peut-être aujourd'hui ne comprenez-vous pas tout ce qui vous arrive ? Êtes-vous assailli d'interrogations ? Alors tournez-vous vers Dieu et accrochez-vous à lui, car le jour viendra où il emplira votre cœur de sa paix, le moment viendra où il renouvellera votre espérance et qu'il vous éclairera sur ses desseins.
Merci, André. Notre désir est que le Seigneur puisse fortifier votre foi et votre espérance dans un monde souvent malheureux. À présent, nous allons passer à notre méditation biblique. Nous étudions ce que l'Épître aux Hébreux nous enseigne au sujet de Jésus. Et je cède tout de suite la parole à notre invité Sébastien. Bonjour.
Merci Hélène et bonjour à tous. L'Épître aux Hébreux nous parle de la supériorité de Jésus-Christ. Sa gloire apparaît dès les tout premiers versets et Janine va à présent nous les lire.
À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur.
La dernière fois, nous avons appris qu'aujourd'hui, Dieu nous parle par l'intermédiaire de Jésus-Christ. De plus, l'auteur de ces versets nous exhorte à écouter Jésus, dont la voix est de loin supérieure à toute autre voix. Mais pourquoi écouter Jésus plutôt qu'un autre? Et en quoi Jésus est-il supérieur au point de devoir retenir notre attention? L'auteur de cette lettre aux Hébreux poursuit en affirmant sur Jésus des vérités tout à fait extraordinaires. Il déclare que c'est par lui que Dieu a créé l'univers. L'auteur de ce texte n'est pas le seul à affirmer de Jésus une réalisation aussi grandiose. Jean déclare aussi, au début de l'évangile qui porte son nom, « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. » Et nous apprenons plus tard que cette parole est devenue homme en la personne de Jésus-Christ. De même, l'apôtre Paul, dans sa lettre à l'église de Colosse, déclare au sujet de Jésus « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. » Ainsi, plusieurs témoins s'accordent pour affirmer cette réalité extraordinaire qui prouve toute la grandeur, la supériorité et la suprématie de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, qui porta le nom de Jésus lors de sa venue ici-bas, devenant ainsi parfaitement homme, a donc participé à la création de toutes choses. Aussi, nous pouvons en déduire les faits suivants. Si Jésus a le pouvoir de créer toutes choses, c'est que nul être ne l'a lui-même créé. Il est donc éternel. Si la nature lui obéit, c'est qu'il dispose d'une puissance qui dépasse notre imagination. Nous ne pouvons qu'en conclure que ce Fils est d'origine divine. Il est le Dieu éternel et tout-puissant. En tant que tel, il est supérieur et glorieux. Voilà pourquoi nous devons prendre ces paroles au sérieux et lui faire confiance.
Merci Sébastien.
Le moment est venu à présent de vous dire au revoir. Mais nous prions, chers amis auditeurs, afin que vous marchiez en paix sous la bénédiction de Dieu.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.